Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia avec vous. Heureux de vous présenter cette édition du vendredi 21 octobre 2022. Voici les titres. La junte guinéenne et la CEDEAO s'accordent sur une transition de 2 ans au lieu des 3 ans initialement annoncés par les militaires. Calme relatif au Tchad après les manifestations contre le pouvoir qui ont fait une 50aine de morts. Prestation de serment au Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré, investi président par le Conseil constitutionnel. Ici aux États-Unis, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole cite l'ancien président Donald Trump à comparaître autour du 14 novembre. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports où Yacouba Ouédraogo nous parlera du refus confirmé de Ronaldo de jouer lors du match Manchester United-Tottenham. Mais tout d'abord, le journal. La junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, renonçant à diriger le pays pendant 3 années. C'est ce qu'indique un document de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un compromis dynamique, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalée sur 24 mois, dit ce document. Le document ne précise pas tout de même quand commence cette période de 24 mois. La CEDEAO avait menacé la Guinée de sanctions. La tension est partiellement retombée ce vendredi au Tchad, au lendemain d'une journée de violence lors de manifestations anti-pouvoir. Une 50aine de personnes ont été tuées, plus de 300 blessés, selon le premier ministre Saleh Kebzabo. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Un calme relatif régnait ce matin dans les quartiers sud de N'Djamena, où la plupart des affrontements ont eu lieu. Plusieurs patrouilles des forces de l'ordre dissuadent d'éventuelles manifestations. Le réseau Internet mobile y était perturbé. Des appels à manifester avaient été lancés depuis le début de la semaine par la plateforme d'opposition Wakit Tama et le parti Les Transformateurs. Ces deux formations avaient boycotté le dialogue national. Le Premier ministre a annoncé la suspension de toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile, dont celle des Transformateurs et de Wakit Tama, suspendue pour 3 mois, précise 2 arrêtés. Saleh Kebzabo a décrété un couvre-feu de 18h à 6h du matin à N'Djamena, Moundou et 2 autres villes. Les manifestants contestent la récente extension de la période de transition et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. L'Union africaine et l'Union européenne ont condamné fermement la répression des manifestations, appelant au respect des vies humaines et des biens et regrettant de graves atteintes aux libertés d'expression et de manifestation. Les États-Unis indiquent que 4 personnes ont été tuées près de l'entrée de leur ambassade à N'Djamena, exhortant les partis à la désescalade.
Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 30 septembre, a été investi président de transition ce vendredi par le Conseil constitutionnel. Les précisions avec Mohamedou Mfa.
Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la constitution, la charte de la transition et les lois du Burkina, a déclaré main droite levée M. Traoré en prêtant serment devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, a indiqué le président par intérim du Conseil, Bourema Cissé. La cérémonie s'est tenue devant les représentants des corps constitués, de l'armée et des forces vives du pays. Aucun représentant étranger n'y a assisté. C'est le 2e putschiste que le Conseil constitutionnel investit en 8 mois. Selon la charte de la transition adoptée la semaine dernière, la transition doit s'achever en juillet 2024 avec la tenue d'une élection présidentielle à laquelle M. Traoré ne pourra pas participer. La charte prévoit par ailleurs la mise en place prochaine d'une assemblée législative de 71 membres et un gouvernement de 25 ministres.
Plusieurs milliers de Soudanais ont défilé ce vendredi contre le pouvoir militaire, près d'un an après le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan, qui a mis fin à la transition démocratique.
Depuis le début de la matinée, les forces de l'ordre quadrillent la capitale Khartoum et ses ponts. Les comités de résistance, ces regroupements de quartiers qui organisent la mobilisation anti-putsch appellent depuis des jours sur les réseaux sociaux à manifester. Les manifestants pro-démocratie commémorent ce vendredi les 58 ans de la première révolution ayant renversé un pouvoir militaire au Soudan. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est entretenu ce vendredi du conflit au Tigré. Lors de cette réunion, la première depuis la reprise des combats fin août dans la région éthiopienne du Tigré, le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, a informé le Conseil sur le processus de paix pour l'Éthiopie mené par l'Union africaine. Plus de 800 migrants, dont des dizaines de Tunisiens, ont été interceptés dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe à partir des côtes de la Tunisie. C'est ce qu'a indiqué la garde nationale tunisienne aujourd'hui. Elle annonce également l'interpellation de 48 personnes, dont 6 recherchées pour affiliation à une bande organisée en vue de franchir illégalement les frontières maritimes dans différentes localités du pays, a ajouté la même source.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a cité ce vendredi l'ancien président républicain Donald Trump à comparaître autour du 14 novembre. Dans un courrier rendu public, elle a par ailleurs assigné à produire avant le 4 novembre toute une série de documents, dont un compte-rendu de toutes ses communications le 6 janvier 2021. Par ailleurs, Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, a été condamné aujourd'hui à 4 mois de prison pour son refus de coopérer avec l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Cette peine, assortie d'une amende de 6 500 $, restera en suspens s'il fait appel, a précisé le juge. Le président américain Joe Biden a salué aujourd'hui la forte baisse du déficit fédéral, preuve selon lui de la résurgence de l'économie, en vantant son bilan avant les élections cruciales de mi-mandat en novembre. Le point avec Rosine Munezero.
Aujourd'hui, nous avons une nouvelle preuve que nous reconstruisons l'économie de manière responsable. Aujourd'hui, mon administration a annoncé que cette année, le déficit a diminué de 1,4 milliard de dollars, la plus grande baisse en un an de l'histoire américaine. 1,4 milliard de baisse du déficit, a déclaré le président Joe Biden. Le déficit budgétaire des États-Unis a diminué de moitié au cours de l'année écoulée grâce à la reprise économique et à la réduction des dépenses de secours, a indiqué le gouvernement vendredi. Les dépenses liées à la pandémie, comme l'assurance chômage et d'autres programmes, ont diminué à la suite de la reprise de la plus grande économie du monde après l'apparition du virus, les entreprises revenant à la normale. La baisse globale du déficit est intervenue après que le président américain a annoncé son intention d'effacer une partie de l'énorme dette étudiante du pays, un sujet de controverse entre démocrates et républicains. Les républicains accusant M. Biden de gaspiller de l'argent avec cette mesure, arguant que les fonds publics pourraient être utilisés plus efficacement.
En Italie, la dirigeante d'extrême droite Giorgia Meloni s'est vue confier aujourd'hui par le président italien Sergio Mattarella la mission de former le nouveau gouvernement. Jean-Roger Bion.
Le gouvernement de coalition constitué par le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi prêtera serment demain samedi et se soumettra la semaine prochaine au vote de confiance des deux chambres du Parlement. Au moment où la troisième économie de la zone euro affronte comme ses voisines une situation économique difficile due à la crise énergétique et à l'inflation, sa tâche s'annonce ardue, d'autant qu'elle devra veiller à l'unité de sa coalition qui montre déjà des fissures. Les médias se sont fait l'écho de multiples passes d'armes entre les trois dirigeants sur la répartition des postes au Parlement et au sein du futur gouvernement. Oratrice de talent, Mme Meloni, 45 ans, une chrétienne conservatrice, hostile aux droits LGBT, ayant pour devise Dieu, patrie, famille, a cependant promis de ne pas toucher à la loi autorisant l'avortement. Coincée entre le marteau de ses alliés et l'enclume de Bruxelles et des marchés, Giorgia Meloni paraît déjà sur le fil du rasoir avant même d'avoir pris ses fonctions, presque une tradition dans un pays connu pour son instabilité gouvernementale chronique.
Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a souligné l'importance du maintien de canaux de communication avec la Russie. C'était lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Sergei Shoigu. Le Pentagone n'a pas donné d'autres détails sur leur conversation, mais le ministère russe avait précisé plus tôt que les deux hommes avaient évoqué plusieurs questions d'actualité de sécurité internationale, dont la situation en Ukraine. Et puis après la démission de la première ministre britannique, Liz Truss, une nouvelle course donc est lancée pour sa succession. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barche.
En Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a ouvert hier à Abidjan la rencontre de l'Alliance des ministres africains de la ville pour le financement qui se poursuit aujourd'hui. Cette réunion, initiée par le Fonds mondial pour le développement des villes, s'articule autour du développement urbain durable. Le ministre ivoirien a pointé le défi de l'urbanisation galopante des agglomérations africaines. Le Royaume-Uni va apporter une garantie de plus de 68 millions de livres sterling pour la construction de l'axe Sokodé-Tchamba-Kambolé, la route entre le Togo et le Bénin. Cette annonce du gouvernement britannique est intervenue dans le cadre de la cérémonie consacrée à l'entrée du Togo au Commonwealth. L'axe routier devrait connecter plus de 200 000 Togolais des régions centrales à de meilleures liaisons de transport vers le Bénin voisin. Une délégation congolaise de la Cellule nationale de renseignement financier a participé hier à une séance de travail sur la lutte contre les crimes financiers avec l'Agence française de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués au siège du GAFI, le groupe d'action financière. Les participants français et congolais ont notamment échangé sur la législation de chaque pays.
À présent, la page des sports avec vous, Yacouba Ouédraogo, bonsoir. L'ASV Club, dernier qualifié pour la Ligue des Champions.
La formation congolaise s'est assurée la dernière place après avoir battu le Rai Club du Kadiogo du Burkina lors d'une séance de tir au but, 4 tirs réussis contre 3 au stade des Martyrs de Kinshasa, 0-0 sur l'ensemble des deux matchs. V Club a été sacré dans cette compétition en 1973 et vice-champion à deux reprises. Il fera sa quatrième apparition dans une phase de groupe en 5 saisons. Le tirage au sort pour composer les 4 groupes de 4 aura lieu à Caire. Le Rai Club du Kadiogo vise maintenant la Coupe CAF et jouera un match de barrage face à un autre club congolais, Saint-Éloi Lupopo, lors d'un match aller-retour en novembre avec une balle à enlever.
La Tunisie va faire face à la Colombie en novembre pour préparer son mondial.
Ça sera le 14 novembre prochain aux Émirats Arabes Unis. Les Aigles de Carthage se mesureront aux Colombiens. Avant cette rencontre, les Tunisiens vont effectuer un stage bloqué à Tunis à partir du 6 novembre. Au Qatar, la Tunisie est logée dans le groupe D en compagnie du Danemark, de la France et de l'Australie. Pour rappel, en plus de la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Ghana et le Cameroun sont les représentants africains à cette Coupe du Monde prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain.
Cristiano Ronaldo a bien refusé d'entrer en jeu selon son entraîneur.
Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a confirmé que Cristiano Ronaldo a refusé d'entrer en jeu comme remplaçant mercredi lors de la victoire des Red Devils contre Tottenham 2-0. Ronaldo s'est dirigé vers le tunnel menant aux vestiaires avant le coup de sifflet final et a quitté le stade en toute hâte. Manchester United a annoncé hier que le joueur n'a pas été retenu dans le groupe pour le match de demain samedi contre Chelsea à cause de cette attitude.
Du basket pour finir avec les résultats de la nuit dernière en NBA.
Les Clippers et Kawhi Leonard, qui faisaient son retour sur le parquet un an et demi après une grave blessure à un genou, ont réussi leur entame de championnat. Ils ont remporté le derby de Los Angeles 103-97 chez les Lakers, qui tombent pour la deuxième fois consécutive en championnat. À Philadelphie, les Bucks ont, à l'image des Clippers, bien lancé leur saison en s'imposant 90-88 dans les dernières secondes aux dépens des Sixers, qui concèdent leur deuxième revers d'affilée. Joël Embiid a été aux abonnés absents en seconde période avec aucun point inscrit. Il en avait toutefois marqué 15 et pris 12 rebonds dans le premier acte, insuffisant pour aider l'équipe de Doc Rivers.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les États-Unis condamnent la violence au Tchad impliquant des affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants protestant contre la prolongation de la période de transition initiale de 18 mois. Dans un communiqué, le département d'État évoque des violences qui ont eu lieu devant les locaux de l'ambassade des États-Unis. Washington se dit profondément préoccupé par la situation et exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue. Alors sur les violences de jeudi, Yacouba Ouédraogo a joint à N'Djamena Mahamat Nour Ibedou, président de la Commission nationale des droits de l'homme.
Le bilan est légèrement plus élevé parce que il y a des blessés graves qui frappent la ville.
Quand vous dites qu'il a augmenté, vous avez un chiffre?
Oui, à peu près un chiffre de 70 morts à peu près.
Vous avez demandé une enquête dans le cadre de ces violences qui ont entraîné des morts. Est-ce que vous y croyez sérieusement?
Nous demandons à ce que le gouvernement diligente une enquête indépendante ou bien même faire recours à un organisme étranger pour faire l'enquête. Entre-temps, dans le communiqué, nous avons proposé nous-mêmes faire notre propre enquête parce que pour mener une enquête impartiale.
Le gouvernement accuse les manifestants d'avoir orchestré tout cela. Les manifestants, bien sûr, disent avoir fait l'objet de tirs à balles réels. Finalement, où se situe la vérité?
Bon, nous ne l'avons pas encore découverte à 100%, mais ce que nous savons, c'est que nous avons reçu, qui se confirmait par plusieurs sources concordantes au demeurant, des individus à bord de véhicules civils, notamment en armes. Chaque fois, ils viennent du côté des gendarmes et ils tirent sur les manifestants avec leurs armes. C'est eux qui tirent sur les manifestants. En fait, les gendarmes et les policiers avaient des ordres fermes de ne pas tirer sur les manifestants. Donc, en grande partie, ceux qui ont tué des manifestants, ce sont ces civils inconnus-là qui se promènent à bord des véhicules sans immatriculation et qui sont armés, qui tirent sur les manifestants.
Vous ne savez pas qui a ordonné à ces civils-là de tirer sur les manifestants?
Non, mais ce que nous savons, c'est que les ordres qui avaient été donnés, parce que dans la chaîne de commandement, nous avons des informations sur le sommet. Et nous avons même eu des silences, parce qu'on s'attendait à des manifestations, on s'attendait à ce que, outre l'interdiction, nous attendions à ce que le gouvernement s'engage de façon ferme à ne pas réprimer, de disperser au besoin, ou bien encadrer s'il y a une marche. Ça n'a pas été le cas. Nous avons assisté à pratiquement un massacre de personnes, surtout perpétrées par des individus inconnus qui se promènent dans des véhicules tripulés et à vitre fumée. Les gendarmes ne les ont pas arrêtés parce qu'en fait, ils ont des instructions pour ne pas tirer.
Le gouvernement a annoncé la suspension de certains partis politiques comme les transformateurs et d'organisations de la société civile comme Wakitama. Qu'est-ce que vous en pensez?
À la Commission nationale des droits de l'homme, nous n'approuvons pas cette mesure parce que nous pensons qu'elle aurait dû être prise après que l'enquête ait établi effectivement que ces partis-là sont les commanditaires de ces manifestations interdites-là.
C'était Mahamat Nour Ibedou, président de la Commission nationale des droits de l'homme du Tchad.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Des activistes nigérians affirment que malgré les vastes manifestations organisées il y a 2 ans pour exiger le démantèlement de la SARS, l'unité controversée de la police en charge du grand banditisme, la brutalité policière est loin d'avoir disparu dans le pays. Jeudi, des centaines de personnes se sont rassemblées au péage de Lekki pour organiser une procession en la mémoire des manifestants tués à cet endroit. C'était le 20 octobre 2020, mais les policiers ont tenté de les disperser par la force. Reportage de Timothy Obiezu depuis Abuja. La narration est de Jean-Roger Bion.
Il y a 2 ans, des milliers de jeunes Nigériens sont descendus dans la rue pour crier leur ras-le-bol face à ce qu'ils appellent la brutalité policière systémique. Saando Oshio était l'un des manifestants dans la capitale, Abuja, mais malgré les manifestations de masse qui se sont soldées par une fusillade meurtrière à Lagos dans la nuit du 20 octobre, Oshio dit avoir été constamment harcelé par des agents. Il se rappelle que l'incident le plus récent remonte à environ 3 mois.
I remember very well.
Je me souviens très bien qu'après les manifestations NSARS, j'ai encore été confronté à la brutalité policière. Avec un ami, un policier s'est approché de nous et a saisi nos téléphones en disant que nous étions des fraudeurs et que nous devions nous arranger avec lui où il allait nous amener à son bureau. Et il a même dit qu'il allait briser nos carrières.
Le SARS est une unité d'intervention de la police réputée pour ses méthodes peu conventionnelles. Les arrestations arbitraires, le racket, la barbarie et parfois le meurtre des personnes en détention. La fusillade du péage de Lekki est devenue historique au Nigeria et pour de nombreux manifestants comme Kenneth Collins Ajagu, avocat basé à Lagos, elle porte la marque de la douleur et de l'injustice. Selon Amnesty International, jusqu'à 12 manifestants ont été tués par les forces de sécurité au péage et de nombreux autres décès ont été signalés dans tout le pays. Les autorités nigériennes ont mis en place des commissions d'enquête chargées d'examiner les allégations de brutalité et d'indemniser les victimes. Mais tout le monde n'a pas été indemnisé. M. Ajagu dit qu'il a eu de la chance de quitter le site peu avant la charge des policiers.
Le jour où les tueries ont eu lieu, j'étais là jusqu'à environ 12 heures de l'après-midi. Avant que je ne parte, c'était encore paisible. Tout le monde était rassemblé, on jouait de la musique. Vu ce qui s'est passé, tout le monde est encore traumatisé.
Des centaines de manifestants de NSARS ont convergé jeudi vers le péage pour se souvenir de leurs amis tués à cet endroit et organiser une procession en signe de respect. Mais ils affirment que des policiers lourdement armés ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser le cortège. Les autorités policières n'ont pas répondu à ces allégations et le porte-parole de la police nationale, Muyiwa Adejobi, n'a pas répondu aux appels pour commentaire. Mais Aïcha Yesufu, militante des droits de l'homme, estime que cela démontre l'extraordinaire niveau d'impunité quand il s'agit des forces de l'ordre.
Je suis allée sur Internet et la première chose que j'ai vue, c'est que des gens qui étaient allés commémorer cette journée se sont fait gazer par la police. Cela montre juste le peu de considération qu'ils ont pour les citoyens. Ils s'en fichent.
Le gouvernement nigérien a annoncé la dissolution de SARS à plusieurs reprises, notamment à la suite de manifestations massives en octobre 2020, mais il est difficile pour de nombreux citoyens comme Oshio et Ajagu de croire que cette brigade n'existe plus.
De nombreuses femmes du monde rural pratiquent des activités génératrices de revenus dans l'agroalimentaire. Certaines sont accompagnées par des structures de soutien aux petits agriculteurs. Pour un éclairage sur la mutualisation en milieu agricole en RDC, Nathalie Barge a joint Espérance Belaou, présidente du conseil d'administration du MC2 Moufa, la mutuelle de croissance communautaire et la mutuelle financière des femmes africaines.
Ce sont des banques de proximité qui sont autonomes et venons avec une approche. Le mutuel, c'est vraiment pour la communauté et pour la réduction de la pauvreté et l'accès aux produits financiers. La femme qui veut adhérer à la MUFA adhère à ce qu'on appelle l'épargne sociale. Elle paye le droit d'adhésion, elle accepte l'épargne sociale et elle participe à ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Parce que nous nous disons, le premier pas vers la richesse, c'est d'abord l'épargne.
Est-ce que vous proposez des formations particulières en lien avec cela?
Absolument. Nous avons, au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, dans notre commission des femmes entrepreneurs, nous avons un outil formidable, le programme Access. Nous avons des modules qui permettent aux femmes de savoir calculer le prix de revient, le coût de production pour savoir comment mettre le bénéfice. Nous avons des programmes, des simples modèles de business plan. Nous le dispensons dans les langues, les quatre langues nationales de la RDC. Ça veut dire même cette femme qui ne sait ni lire ni écrire au fin fond du village, quand nous y arrivons, nous demandons à nos formatrices, parce que nous en avons 140 à travers toute la République, de parler la langue qui comprend notre cible pour lui permettre de mieux s'outiller pour la gestion de son business.
Dans le monde rural, on sait qu'il y a également des petites coopératives ici et là. Est-ce que c'est un modèle qui leur permettrait éventuellement d'avoir plus accès à la terre ?
Aujourd'hui, ces coopératives, ces femmes produisent, mon entreprise achète leur production dans leur lieu de travail et nous permettons la commercialisation. Cette maman qui travaille dans le village, on lui enlève toute cette charge, la difficulté de transformer, la difficulté de trouver les transports, la difficulté d'acheminer vers le point de stockage et de chercher le marché. Et aujourd'hui, ces femmes et ces hommes, en étant ensemble au sein d'une coopérative, on sait leur trouver des espaces, on sait mener le plaidoyer auprès des institutions gouvernementales pour avoir l'accès à la terre. Parce que vous savez, l'accès à la terre, et surtout dans le monde rural chez nous, elle est très compliquée parce que l'héritage de la terre, il est masculin. Les femmes n'ont pas accès à la terre. Et sur le plan juridique, il y a de plus en plus de projets et de progrès qui se font pour justement permettre l'accès à la terre aux femmes.
Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir tout ce qui est nécessaire pour un peu développer cette agriculture sur une plus grande échelle ?
Chez nous, c'est de l'agriculture de type familial. 52% de la population congolaise est composée de femmes. Et dont ces 52%, plus de 60% vivent dans le monde rural. Et c'est ce monde-là qui nourrit les grandes villes. Et si aujourd'hui le gouvernement optait pour une politique agricole adéquate avec le moyen qu'il faille, en y intéressant les différents acteurs, je pense que la RDC peut justement, comme on dit, peut-être demain, les greniers de l'Afrique. Mais si on nous impose des politiques qui sont en inadéquation totale avec la réalité, nous resterons dans cette agriculture de subsistance.
C'était l'entrepreneur congolaise Espérance Belaou, présidente du conseil d'administration de MC2 Moufa, jointe à Kinshasa.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Des enquêtes menées en Afrique du Sud révèlent que les diplômés et les personnes à haut revenu qui font face à une économie vacillante sont de plus en plus nombreux à faire leurs valises et à déménager à l'étranger. La fuite des cerveaux et des capitaux frappe les caisses fiscales du pays, ce qui, selon les analystes, risque de faire échouer les plans du gouvernement qui visent à distribuer davantage de richesses aux personnes économiquement marginalisées. Un reportage de Linda Giftache depuis Johannesburg et c'est un récit de Thierry Kaoré.
Il est temps de partir. C'est ce que disent de nombreux Sud-Africains compétents alors que le pays est confronté à une multitude de défis. Taux de chômage élevé, hausse de la criminalité et délabrement des services publics. Ramez Mayed est un professionnel de l'immigration.
En principe, si vous faites partie de la classe moyenne, vous avez assez d'argent pour vivre dans votre maison, vous déplacer en voiture pour aller travailler, rentrer chez vous en voiture ou si vous devez vous rendre au centre commercial en voiture. Donc, vous vivez dans cette bulle. Vous ne quittez pas vraiment votre voiture. Vous avez peur de marcher dans la rue. Pourquoi ? Je pourrais me faire voler, kidnapper, ma femme pourrait avoir des ennuis.
Les économistes de la First National Bank ont déclaré qu'une maison sur cinq vendue dans le pays avant la pandémie de COVID-19 était liée à l'émigration. Si la pandémie a mis un terme à ce mouvement, les ventes reviennent lentement. Autre indicateur, les résultats décevants d'un impôt sur les plus riches imposé il y a plus de 5 ans. Sifa Mandla est économiste principal de la First National Bank.
Nous n'avons pas collecté autant que nous le pensions, n'est-ce pas? Et le nombre de personnes dans cette tranche d'imposition n'a pas tellement évolué, même avec le type d'inflation que nous connaissons. Donc cela vous dit que quelque chose se passe vraiment dans cette catégorie supérieure.
New World Wealth, une entreprise sud-africaine de renseignement sur la fortune, a publié un rapport au début de l'année sur la migration de personnes fortunées valant plus $1 million. Les chercheurs affirment que si les flux sortants peuvent être observés dans d'autres marchés émergents, ils constituent une préoccupation pour l'économie sud-africaine. Andrew Amwels, chef de la recherche de New World Wealth.
Je pense que s'il s'agit d'un entrepreneur, par exemple, ou de quelqu'un qui cherche à créer une grande entreprise ou à se développer ou à développer une entreprise et qui déménage, alors c'est évidemment un problème. Je pense que les personnes fortunées sont souvent les premières à déménager car elles ont les moyens de le faire. Mais en même temps, la classe moyenne va le plus souvent suivre.
La perte potentielle de recettes fiscales est préoccupante alors que le pays explore la création d'une allocation de revenus de base pour soutenir davantage de personnes à revenus faibles ou moyens. Environ la moitié des quelque 60 millions de Sud-Africains vivent sous le seuil de pauvreté.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.